Introduction. Le péché originel. En 1934, une jeune pédiatre allemande du nom de Hildebrandt part pour l'Amérique, s'installe à New York et s'émeut, comme elle l'écrira plus tard, du nombre d'enfants en surpoids qu'elle y voit. Des enfants vraiment gros, pas seulement dans les cliniques, mais aussi dans les rues, dans le métro et dans les écoles. La vision d'enfants en surpoids est alors si prégnante à New York que d'autres immigrants européens en demandent la raison à Brou, supposant qu'elle pourra leur fournir une explication. Mais qu'ont donc les petits Américains? Pourquoi sont-ils si gros? Nombre d'entre eux n'ont jamais vu autant d'enfants comme cela. Aujourd'hui, alors qu'il est impossible d'ignorer que le monde entier se trouve au beau milieu d'une véritable épidémie d'obésité, c'est en permanence que se pose ce type de question, à l'égard des enfants comme des adultes. Pourquoi sont-ils si gros? Peut-être vous demandez-vous pourquoi vous-même êtes atteint ou atteinte de surpoids. Mais revenons au New York du milieu des années 1930. C'était 20 ans avant l'apparition des premiers restaurants franchisés, comme Kentucky Fried Chicken ou McDonald's, et la naissance du fast-food, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un demi-siècle avant la malbouffe, les portions XXL et le sirop de glucose-fructose. En 1934, on se trouvait au plus profond de la Grande Dépression, c'est-à-dire dans une période marquée par un taux de chômage tel qu'on n'en avait jamais connu jusqu'alors, et où de longues files d'attente devant les soupes populaires étaient monnaie courante. Aux États-Unis, un ouvrier sur quatre était sans emploi. 6 personnes sur 10 vivaient en dessous du seuil de pauvreté. À New York, où Brou et ses compagnons d'immigration étaient choqués par l'embonpoint infantile, on disait qu'un enfant sur 4 était mal nourri. Comment cela était-il possible? Un an après son arrivée à New York, Brou ouvrit à la faculté de médecine et de chirurgie de l'Université de Columbia une clinique spécialisée dans le traitement de l'obésité infantile. En 1939, elle publia le premier d'une série de rapports présentant les études très poussées qui avaient été conduites sur les nombreux enfants obèses qu'elle avait traités, malheureusement sans succès dans la plupart des cas. Les entretiens menés avec ses jeunes patients et leurs familles lui avaient appris que ces enfants obèses mangeaient en quantité excessive, quelle que soit la vigueur avec laquelle eux ou leurs parents tentaient au début de nier ce fait. Mais il ne suffisait pas de leur enjoindre de manger moins pour leur faire perdre du poids. Et quelle que soit la quantité d'instruction ou de compassion, d'aide ou d'exhortation que recevaient enfants ou parents, rien ne s'avérait efficace. On ne pouvait ignorer, nota Brou, que ces enfants avaient tout de même passé le plus clair de leur vie à essayer de manger avec modération afin de contrôler leur poids, ou tout au moins avaient pensé à manger moins, et qu'ils restaient néanmoins obèses. Elle rapporta que certains d'entre eux faisaient des efforts considérables pour perdre du poids, renonçant pratiquement à toute vie normale pour y parvenir. Mais se maintenir à un poids moindre impliquait de suivre en permanence un régime draconien, et ils n'y parvenaient pas, même si leur obésité les rendait malheureux et faisait d'eux des parias. Parmi les patients de Brou se trouvait une fillette d'une dizaine d'années à l'ossature délicate, disparaissant littéralement sous des montagnes de graisse. Elle avait passé toute sa jeune existence à lutter à la fois contre son poids et contre les tentatives de ses parents pour l'aider à maigrir. De même que ses parents, elle savait, ou croyait savoir, ce qu'il lui fallait faire, c'est-à-dire manger moins, et sa vie entière était définie par les efforts démesurés qu'elle faisait pour tenter d'y parvenir. « J'ai toujours su que la vie que nous avons dépend de notre silhouette », déclara-t-elle à Brou. « À chaque fois que je prenais du poids, ça me rendait triste et déprimé. À quoi bon vivre ? À vrai dire, je me détestais. C'était tout simplement insupportable. Je ne voulais pas me regarder. Je détestais les miroirs. Ils montraient à quel point j'étais grosse. Cela ne m'a jamais rendue heureuse de manger et de grossir. Mais je n'ai jamais trouvé la solution, et j'ai continué à prendre du poids. » À l'instar de cette fillette qu'évoque Brou, les personnes souffrant de surpoids ou d'obésité passent une grande partie de leur vie à essayer de manger moins ou, en tout cas, de ne pas manger trop. Ils ont parfois du succès, échouent à d'autres moments, mais ils continuent à lutter. Pour certains, comme pour les patients de Brou, ce combat débute dès l'enfance. Pour d'autres, il commence en même temps que les études supérieures, lorsque, habitant pour la première fois hors de chez leurs parents, ils voient leur abdomen et leurs hanches s'enrober d'un capiton de plus en plus confortable, phénomène typique des campus nord-américains, appelé « freshman 20 »
aux États-Unis.
D'autres encore attendent la trentaine ou la quarantaine pour se rendre compte que, désormais, rester mince leur demande des efforts. Lorsqu'une personne dont le poids est supérieur à ce que recommandent les autorités médicales se rend chez un médecin, et ce, pour quelque raison que ce soit, celui-ci lui conseille en général, plus ou moins énergiquement, de combattre cette surcharge pondérale. Il lui explique que surpoids et obésité augmentent le risque de pratiquement toutes les maladies chroniques susceptibles de nous affecter. Maladies cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral, AVC, diabète, cancer, démence ou asthme, et lui enjoint d'avoir une activité physique régulière, de suivre un régime et de manger moins, comme si le patient n'en avait jamais eu de lui-même l'idée ni le désir. À propos de l'obésité, Brou affirmait, plus que pour n'importe quelle autre maladie, on attend du médecin qu'il amène, pour ainsi dire par magie, le patient à faire quelque chose, en l'occurrence cesser de manger, alors que le patient a déjà prouvé qu'il n'y parvenait pas.
Les médecins de l'époque de Brou ne pêchaient pas par légèreté.
Pas plus que ne le font ceux d'aujourd'hui. C'est simplement qu'ils adhéraient et adhèrent à un système de croyance lacunaire selon lequel la raison pour laquelle nous grossissons est simple et évidente. De même que l'est son remède. Le corps médical nous enseigne que nous prenons du poids parce que nous mangeons trop et ou bougeons trop peu et qu'il suffit de faire le contraire pour mincir. À tout le moins, il nous faut manger juste ce qu'il faut, selon la fameuse prescription que fait Michael Pollan dans Nutrition, mensonge et propagande. Et le tour sera joué. Au moins, nous arrêterons de prendre du poids. C'est là ce que Brou décrivait en 1957 comme étant l'opinion générale américaine qui veut que le problème de l'obésité soit tout simplement dû au fait de manger plus que le corps n'en a besoin et qui représente aujourd'hui l'opinion générale dans le monde entier. On peut définir cette opinion comme modèle de l'apport et de la dépense de calories, de la suralimentation ou de l'équilibre énergétique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la cause fondamentale de l'obésité et du surpoids est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et dépensées. Ce modèle implique que nous grossissons lorsque nous absorbons davantage d'énergie que nous n'en dépensons, ce que les scientifiques appellent un équilibre énergétique positif, et que nous mincissons lorsque nous en dépensons plus que nous n'en consommons, équilibre énergétique négatif. La nourriture est source d'énergie, et nous mesurons cette énergie sous forme de calories. Si nous absorbons plus de calories que nous n'en consommons, nous prenons donc du poids, alors que si nous en absorbons moins, nous perdons du poids. Cette façon de considérer le poids est si convaincante et si largement propagée qu'il est aujourd'hui pratiquement impossible de ne pas l'adopter. Et même si nous disposons d'innombrables preuves du contraire, et quel que soit par ailleurs le temps et l'énergie que nous ayons consacrés au cours de notre vie à essayer sans succès de manger moins et de faire davantage d'exercice, nous avons tendance à douter de notre propre jugement et de notre propre volonté, plutôt que de cette croyance selon laquelle nos kilos superflus sont déterminés par le nombre de calories que nous consommons et dépensons. J'aime citer une anecdote pour illustrer ce point de vue. Un physiologiste sportif reconnu, co-auteur d'une série de recommandations ayant trait à l'activité physique et à la santé, publiée en août 2007 par l'Association américaine de cardiologie et l'Association américaine de médecine sportive, m'a déclaré un jour que lorsqu'il avait commencé la course de fond dans les années 1970, il était court, chauve et gros. Tandis que maintenant, âgé d'une bonne soixantaine, il était court, chauve et encore plus gros. Entre-temps, il avait pris une quinzaine de kilos tout en courant pas moins d'environ 130 000 kilomètres, soit approximativement 3 fois le tour de la Terre en passant par l'équateur. D'un côté, cet homme ne croyait pas que l'exercice physique suffise à tout résoudre en matière de stabilité pondérale, mais de notre côté, il ne faisait pas de doute pour lui que s'il n'avait pas pratiqué la course à pied, il aurait pris encore plus de poids. Lorsque je lui ai demandé s'il pensait réellement qu'en courant encore plus, en effectuant par exemple 4 tours de la planète au lieu de 3, il serait resté plus mince, il m'a répondu « Je ne sais pas comment j'aurais pu être encore plus actif physiquement. Je n'avais pas le temps d'en faire plus. Mais si j'avais pu bouger 2 ou 3 heures par jour au cours des 20 ou 30 dernières années, je n'aurais peut-être pas pris ce poids. Qui sait ? Il aurait fort bien pu grossir quand même. Mais cette éventualité ne lui venait pas à l'esprit. Il était tout simplement prisonnier du modèle de pensée dominant. Depuis des années, cette croyance selon laquelle les kilos superflus résultent d'un déséquilibre entre l'apport et la dépense de calories
a témoigné d'une remarquable résistance à toute preuve du contraire. Imaginez un instant un procès pour meurtre, au cours duquel des témoins dignes de foi se succéderaient à la barre, affirmant que le suspect se trouvait autre part au moment du crime, lui fournissant ainsi un alibi à toute épreuve, et où les jurés persisteraient néanmoins à considérer l'accusé comme coupable, pour la simple raison que c'était ce qu'il croyait lorsque le procès a débuté. Penchons-nous à présent sur l'épidémie d'obésité. De nos jours, les humains grossissent de plus en plus. Il y a 50 ans, un Américain sur 8 ou 9 aurait été officiellement considéré comme obèse. Aujourd'hui, le rapport est d'un sur trois. En outre, 2 sur 3 sont considérés comme étant en surpoids, c'est-à-dire que leur poids corporel est supérieur à ce qui est estimé comme sain par les autorités de santé publique. Aujourd'hui, les enfants sont plus gros, les adolescents aussi, et même les nouveau-nés sortent plus gros qu'avant du ventre de leur mère. Or, tout au long des décennies qu'a déjà duré cette épidémie d'obésité, le modèle de l'équilibre énergétique apport-dépense de calories a régné en maître. Par conséquent, les autorités sanitaires supposent que soit nous n'avons pas écouté leurs recommandations, manger moins et bouger plus, soit nous ne faisons pas ce qu'il faut. Le journaliste Malcolm Gladwell a abordé ce paradoxe en 1998 dans le New Yorker. Il écrivait ceci. On nous a dit qu'il ne fallait pas consommer plus de calories que nous n'en brûlions et que sans activité physique régulière, nous ne pourrions pas perdre de poids. Or, rares sont ceux qui parviennent réellement à suivre ces recommandations. C'est donc soit de notre faute, soit de la faute des recommandations. L'orthodoxie médicale penche naturellement en faveur de la première option. Les livres de régime penchent, eux, en faveur de la seconde. Étant donné le nombre de fois où l'orthodoxie médicale s'est trompée par le passé, cette seconde option ne doit pas être considérée comme irrationnelle a priori, et il serait intéressant de déterminer dans quelle mesure elle peut être vraie. Après avoir interrogé le nombre requis d'autorités compétentes, Gladwell décida que c'était de notre faute, que nous manquions de discipline ou de moyens pour manger moins et bouger plus, tout en suggérant néanmoins que la responsabilité de la corpulence de certains d'entre nous incombait davantage à des défaillances de leur gène que de leur mental. Dans le présent livre audio, je soutiens, quant à moi, que la faute revient entièrement à la médecine orthodoxe, tant en ce qui concerne la croyance, selon laquelle le surpoids provient d'une consommation excessive de calories, que pour les recommandations qui en découlent. J'affirme que le modèle de l'équilibre entre l'apport et la dépense de calories est absurde, que ce n'est pas parce que nous mangeons trop et bougeons trop peu que nous grossissons, et que ce n'est pas en faisant consciemment le contraire que nous pouvons résoudre ou éviter le problème. C'est dans ce modèle que réside, pour ainsi dire, le péché originel, et nous ne trouverons jamais de solution à nos problèmes de poids personnel, ni encore moins aux problèmes sociétaux que constituent l'obésité, le diabète et les maladies qui s'y rattachent, tant que nous n'aurons pas compris cela et changé de voie. Cela ne signifie pas pour autant que je veuille suggérer qu'il existe une recette miracle pour perdre du poids, ou qu'il y en ait tout au moins une qui n'implique pas certains sacrifices. Mais la question est, que faut-il sacrifier au juste? La première partie de ce livre audio présente les preuves qui contredisent le modèle recommandant l'équilibre entre calories consommées et calories dépensées. J'y étudie un grand nombre d'observations et de faits concrets que ce modèle échoue à expliquer, ainsi que les raisons pour lesquelles il a quand même été adopté et les erreurs qui en ont résulté. La seconde partie présente la façon dont la recherche médicale européenne avait commencé à considérer l'obésité et l'excès de graisse corporelle juste avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale. Selon ce point de vue, qui est également le mien, il est absurde de considérer que l'obésité est causée par la suralimentation, car tout ce qui fait croître l'être humain, en taille ou en poids, en masse musculaire ou graisseuse, l'amène à se suralimenter. Les enfants, par exemple, ne grandissent pas davantage parce qu'ils mangent voracement et consomment plus de calories qu'ils n'en dépensent. Mais s'ils mangent autant, s'ils se suralimentent, c'est parce qu'ils grandissent. Il leur est nécessaire de consommer plus de calories qu'ils n'en dépensent. La raison pour laquelle les enfants grandissent est qu'ils sécrètent des hormones qui les font grandir, des hormones de croissance. Et il y a toutes les raisons de croire que la croissance de nos tissus adipeux, qui entraîne, à terme, surpoids et obésité, est également générée et contrôlée par des hormones. Aussi, plutôt que de définir l'obésité comme un trouble dû à un déséquilibre énergétique ou à la suralimentation, comme le font les experts depuis un demi-siècle, Les chercheurs européens que j'ai évoqués sont partis de l'hypothèse que l'obésité était fondamentalement liée à une accumulation excessive de graisse. C'est là ce qu'en philosophie on qualifierait de « principe premier ». La véracité de ce principe est tellement évidente qu'il semble presque inutile de l'énoncer. Mais une fois qu'on l'a formulé, la question qui se pose naturellement est « qu'est-ce qui régule l'accumulation de graisse ?» Ici, les hormones ou les enzymes qui, de même que les hormones de croissance, font grandir les enfants, génèrent naturellement une accumulation de graisse corporelle, sont inéluctablement susceptibles d'attirer sur eux l'attention de quiconque cherche à déterminer pourquoi certaines personnes grossissent et d'autres pas. Au tournant des années 1950 et 1960, époque à laquelle on répondit à cette question de savoir ce qui régule l'accumulation des graisses, les médecins-chercheurs européens avaient malheureusement disparu, victimes de la Seconde Guerre mondiale, emportant avec eux leurs idées sur l'obésité. Il s'avère que deux facteurs déterminent essentiellement la quantité de graisse que nous accumulons, et que tous deux sont liés à l'hormone insuline. Premièrement, lorsque notre taux d'insuline est élevé, nous accumulons de la graisse dans nos tissus adipeux. Lorsque ce taux baisse, les tissus adipeux libèrent de la graisse qui est alors brûlée par notre organisme pour produire de l'énergie. Ce phénomène est connu depuis le début des années 1960 et n'a jamais suscité de controverse. Deuxièmement, notre taux d'insuline est déterminé par les glucides que nous consommons, pas à 100%, mais en grande partie. Plus nous mangeons de glucides, et plus ces glucides sont sucrés et faciles à digérer, plus nous sécrétons d'insuline, autrement dit, plus notre taux d'insuline sanguin est élevé, et plus nous retenons de graisse dans nos cellules adipeuses. George Cahill, ancien professeur à la faculté de médecine de l'université de Harvard, ayant compté dans les années 1950 parmi les pionniers de la recherche sur la régulation de l'accumulation de graisse, et ayant coédité en 1965 un ouvrage publié par l'American Physiological Society, qui rassemblait les résultats de ses recherches, m'a récemment décrit le phénomène en ces mots. Les glucides génèrent de l'insuline qui génère de la graisse. En d'autres termes, la science elle-même affirme clairement que ce sont les hormones, les enzymes et les facteurs de croissance qui régulent nos tissus adipeux comme ils le font avec l'ensemble des phénomènes du corps humain et que ce n'est pas parce que nous mangeons trop que nous grossissons, mais parce que les glucides que contient notre alimentation nous font grossir. La science nous dit que l'obésité résulte en fin de compte non d'un déséquilibre calorique, mais d'un déséquilibre hormonal, et plus spécifiquement de la stimulation de la sécrétion d'insuline causée par l'absorption d'aliments glucidiques faciles à digérer, tels que les glucides raffinés, parmi lesquels la farine et les céréales, certains féculents comme les pommes de terre et les sucres, parmi lesquels le saccharose, sucre blanc, et le sirop de glucose fructose. Ce sont ces glucides qui nous font grossir, et parce qu'ils nous font accumuler de la graisse corporelle, qui augmentent notre sensation de faim et nous rendent plus sédentaires. Voilà la raison fondamentale pour laquelle nous grossissons. Si nous souhaitons devenir ou redevenir minces et le rester, il nous faut comprendre et accepter cette réalité. Et nos médecins, et peut-être est-ce encore plus important, vont eux aussi devoir la comprendre et l'admettre. Si votre seul but en écoutant ce livre audio était d'obtenir une réponse à la question « Que dois-je faire pour rester mince ou perdre mes kilos superflus ?» alors voici la réponse que vous attendiez. Évitez les aliments riches en glucides. Et gardez à l'esprit que plus un aliment est sucré ou facile à consommer et à digérer, les glucides liquides, tels que la bière, les jus de fruits et les sodas étant probablement les pires, plus ils risquent de vous faire grossir, et plus il est conseillé de l'éviter. Ce message est loin d'être nouveau. Jusqu'aux années 1960, c'était l'opinion exprimée par le bon sens populaire, j'y reviendrai plus tard. Jusqu'à cette époque, les aliments riches en glucides, le pain, les pâtes, les pommes de terre, les aliments sucrés, la bière, avaient la réputation de faire particulièrement grossir. Et quiconque ne voulait pas prendre de poids évitait donc d'en manger. Depuis lors, le message a été répété par d'innombrables livres de régime, parmi lesquels de nombreux best-sellers. Mais cette donnée fondamentale a tellement été malmenée, et les recherches qui s'y rapportent ont tellement été déformées ou mal interprétées, tant par les promoteurs des régimes faibles en glucides que par ceux qui affirment avec force que ces régimes ne sont rien d'autre qu'une vogue dangereuse, c'est notamment le cas de l'Association américaine de cardiologie, que j'estime nécessaire de l'analyser de nouveau. Si vous trouvez l'argument suffisamment convaincant pour vouloir modifier votre alimentation en conséquence, tant mieux. Ce livre audio vous fournira des recommandations pour ce faire. Fondé sur les leçons de cliniciens ayant durant des années traité des patients en surpoids et, par ailleurs, fréquemment atteints de diabète. Au cours des presque 7 décennies qui se sont écoulées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, époque où l'on débattit des causes de la prise de poids, calories ou glucides, cette question a souvent paru relever davantage de la religion que de la science. En effet, il existe tant de croyances différentes en matière d'alimentation saine que l'interrogation scientifique « Pourquoi grossissons-nous ?» a disparu en chemin, éclipsée par des considérations éthiques, morales et sociologiques qui, tout en étant valables en soi et certainement dignes d'être discutées, sont totalement étrangères à la science et n'ont pas leur place dans une enquête scientifique. Normalement, ou peut-être idéalement, les régimes hypoglucidiques remplacent les glucides par des portions supplémentaires de produits d'origine animale, œufs au petit-déjeuner, viande, poisson ou volaille au déjeuner et au dîner. Les conséquences de ce choix alimentaire exigent une réflexion. Notre dépendance des produits d'origine animale ne nuit-elle pas d'ores et déjà à l'environnement? Et ce phénomène ne risque-t-il pas d'empirer? L'élevage de bétail n'est-il pas l'une des premières causes du réchauffement climatique, du manque d'eau et de la pollution de notre planète? Lorsque nous réfléchissons à une alimentation saine, ne devons-nous pas penser à ce qui est bon pour la Terre autant qu'à ce qui est bon pour nous? Avons-nous le droit de tuer des animaux pour les manger, de les faire travailler pour produire nos aliments? Le seul mode d'alimentation défendable d'un point de vue moral et éthique n'est-il pas végétarien, voire végétalien? Toutes ces questions sont importantes et demandent que l'on s'y intéresse, individuellement comme collectivement. Néanmoins, elles n'ont pas leur place dans la discussion scientifique et médicale sur les raisons pour lesquelles nous prenons du poids. Personnellement, c'est ce dernier sujet que je m'apprête à explorer dans ce livre audio. Pourquoi sommes-nous trop gros? Pourquoi nos enfants sont-ils trop gros, eux aussi? Et que pouvons-nous entreprendre contre cela ?